notre Père du matin dans la liturgie. Parce qu'en fait, Saint-Simon et Saint-Jude avec des cris de joie, publier la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, là voilà, le Seigneur a délivré son peuple, à pleine voix proclamé l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et toute la terre acclamait Dieu, et fêtait la gloire de son nom. Et glorifiez-le et célébrez sa louange. Et que tous proclament et que tous disent que tes actions sont redoutables. Venez, venez voir les hauts faits de Dieu, ses exploits admirables, redoutables pour les fils des hommes. Il change la mer, il en fait de la terre ferme. Et tout se passe, le fleuve à pied sec. Tous les peuples, toutes les multitudes bénissez. Votre Dieu fait retentir sa message, sa louange parce qu'il rend la vie à l'âme et à toutes nos âmes. Et nos pieds ne chutent pas parce qu'il nous garde. Oui, c'est vrai, Saint-Simon et Saint-Jude. Jésus, il a réservé sa miséricorde à Israël. Comme ça. Il a réservé sa présence à quelques-uns. Il a choisi Joseph, il a choisi l'Immaculée. Dieu a choisi. Quand Jésus est rentré, il a passé la nuit à prier, mais il est parti et il est rentré à l'intérieur, c'est un N, dans la montagne, à l'intérieur d'une montagne. Et puis, il a appelé ses disciples. Le matin. Voilà. Donc on vient d'entendre ce passage que l'Église a choisi pour les apôtres Saint-Simon et Saint-Jude. Incroyable. On a l'impression d'y être. Et ils ont choisi 12. C'est extraordinaire, quoi. Hein. Puis comme ils descendent ensemble, ensuite, une vallée très 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 grande, très 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 plate. Il y avait des multitudes, impossible à dénombrer. Tout Jérusalem était là, et toute la Judée, ça c'était tout en dessous de la Galilée, ça. Et au nord, là-bas, jusqu'à la Syrie, jusqu'à Tyre et à Sidon. Toute foule était là, c'est immense. Il devait y en avoir. Et les historiens, comme Joseph, etc., Joseph, disent que c'était des millions, hein, qui venaient, des millions, qui venaient à Jérusalem chaque année. Donc, vous voyez toutes les foules qui étaient là. Il est descendu. Et c'est seulement à partir du moment où il a choisi les apôtres que, quand il y a un se trouve comme ça dans la, au milieu de la de cette masse innombrable de gens, qu'il a dit qu'une force sort de lui, qu'il les guérissait tous. Et tous. C'est extraordinaire que Jésus n'ait rien voulu faire sans ses apôtres. Le fait qu'il y ait les apôtres donne à la bonne nouvelle de l'absolution, de la libération, son effet immédiat. Dans une force, une patience, la force c'est la patience. C'est une patience, c'est un amour continuellement effervescent. Dans une patience essentielle, c'est une force. En fait, c'est du feu, quoi. C'est un feu sans limite et sans fin, mais voilà. Mais une force qui est continuelle. C'est ça la patience. Et c'est tout intérieur. Jésus, il a fallu qu'il rentre dans la montagne pour choisir ses apôtres. Voilà. Ça veut dire qu'il les a choisis en s'incarnant. La montagne, ça représente le Verbe de Dieu. Ça représente la présence personnelle, intime et vivante du Verbe de Dieu. Lorsqu'il touche les sommets de son hypostase et qu'il pénètre dedans, dans le Père, donc, et là, il est envoyé et il appelle ses disciples. Il appelle Marie, enfin, il l'appelle, vous comprenez bien, il donne sa vocation. Appelé vocat, il donne sa mission, sa vocation à Marie. Et elle dit, me voici. Il donne sa vocation à Saint-Joseph, il donne sa vocation aux 12 apôtres. Alors, Simon et Jude, et Jésus n'est tout à fait lui-même que lorsqu'il fait corps, lorsqu'il est sauté, lorsqu'il est inséparable, lorsqu'il est à l'intérieur, lorsqu'il demeure à l'intérieur, donc, de la montagne, et qu'il en émane. Et que par ce même mouvement, il est à l'intérieur de ses apôtres, de l'Immaculée Conception, de Sainte Famille, et qu'il en émane. Il en émane une force. Et la bonne nouvelle de l'Évangile va être donnée comme ça, avant sa mort et sa résurrection, à Israël. Et après ça, et quand Dieu va le ressusciter d'entre les morts, il va justifier. Il va rendre juste, il va transformer le monde en une demeurance de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Et pour ça, il choisit les apôtres. Et c'est la force de notre vie chrétienne, c'est une force apostolique. La grâce chrétienne, c'est une participation à la croix, mais c'est une force apostolique. Il va jusqu'aux confins. De la demeurance de Dieu. Voilà, et oui. Alors, outre le fait, bien sûr, que bon, voilà, pour Simon et Jude, c'est parmi les apôtres, ceux qui ont été, qui ont été avec Jésus. Avec le Christ le plus longtemps, hein, puisque c'était les frères de Jésus. Quand vous avez cette expression, dans l'araméen, que Simon et Jude sont les frères de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont le même grand-père, quoi. Le nom frère de Jésus, ça dessine des gens qui font partie de la même famille parce qu'ils ont le même grand-père. Alors, hein, la devinette, c'est Zacharie, ou bien c'est Jacob, le père de Joseph. Ou je sais, je sais pas. En tout cas, c'est les frères. Ça veut dire que quand ils sont à Nazareth avec Marie et Joseph, ils sont chez eux. C'est les Hébreux, c'est comme ça. L'oncle et l'éducateur. Et ils ont connu Jésus enfant. Ils ont connu Jésus avec... Ils ont vécu Marie, ils ont connu... C'est pour ça qu'ils sont silencieux. On ne voit pas Simon et Jude avec leur... Non, c'est la douceur, c'est l'humilité, c'est la sainte famille. Ils reçoivent Jésus comme Dieu vivant, venu s'incarner dans l'Immaculée Conception. Ils ont compris ça depuis longtemps. Alors, vous lisez les livres, les théologiens, les scribes, les exégètes, ils vont dire, faut pas confondre les Simon et Jude qui sont les frères de Jésus avec les apôtres, c'est deux autres encore. Non, l'Église nous donne l'Évangile et qui dit ce sont les frères de Jésus. Alors, des élucubrations, des preuves exégétiques. Vous laissez ça à ceux que ça intéresse. Moi, ça, nous, ça ne nous intéresse pas. On reçoit la bonne nouvelle de Dieu et des apôtres. Ah oui, Simon le zélote, Simon c'était un type qui le zélote. Qui était prêt à se battre, c'était un... On dirait aujourd'hui, je sais pas comment on pourrait dire. Résistant, c'était un... Il était engagé, quoi. Ils étaient prêts à tout. Ils faisaient partie de ceux qui étaient prêts à tout. Et son cousin, il y avait un cousin, fils de Jacques, comme c'est dit ici, mais il s'appelait Matthieu. Matthieu, c'était un cousin. Lui, c'était un collabo, lui, c'est le contraire. Une politique, vous ne pouvez pas faire pire que... Comme opposé, quoi. C'était le collabo, le public. Hein. Ah. Il y avait le mystique, là, il y avait Jean, le jeune, là. Il y avait Nathanaël, c'était vraiment le Hakmé à Talmud. Lui, communiquer la Torah, il vivait messianiquement du Messie. Il faut voir chacun des 12 apôtres. Vous ne pouvez pas faire plus opposé. Humainement, politiquement, il faudrait faire cette... Et Jésus, il prend les 12 et il fait l'Église, comme ça. Et Jude, c'est à Jude qu'on doit cette parole extraordinaire. celui qui m'aime et qui écoute nos paroles. J'étais de quelqu'un qui était comme ça. Ça devait être comme Saint-Joseph, il ressemblait. Il avait quelque chose de Saint-Joseph, Jude. Celui qui demeure, qui aime ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons dans lui et en lui nous ferons notre demeure. Parce que Jude avait dit, oui, mais pas. Tu t'adresses à nous seuls, les apôtres, ou bien à tout le monde. Vous vous rendez compte, c'est deux saints d'aujourd'hui. Il faut qu'on soit amis avec eux. Parce que voilà, ils étaient là. Quand ils sont allés à Jérusalem, là, quand Jésus avait 12 ans, ben, ils étaient, ils faisaient partie du pèlerinage, ils étaient là. Ils faisaient partie, ils avaient eux, c'est probablement, je sais rien, peut-être plus petit, mais ils étaient là. Et Jésus, ben, quand il était à Nazareth, il leur parlait. Hein. Et qu'est-ce qu'il disait Jésus dans le temple de Jérusalem? Il parlait du prophète Daniel, à Hillel. Peut-être qu'il y avait Shammai, je ne suis pas sûr. Mais enfin, il leur parle pendant 3 jours, là. Et quand Marie-Joseph le cherche partout. Ils vont demander à Simon et Jude, ils cherchent partout. Depuis qu'ils sont enfants, ils sont là, tout proches. Ils savent les secrets. Ils en reçoivent des grâces. Jésus, il a déjà des apôtres avec lui quand il est enfant. Ce sont ces deux-là. Donc une force sort de lui pour que dans le temple de Jérusalem puisse faire glorifier le temple de Dieu. Parce que quand le Messie rentre dans le temple, la gloire de Dieu rentre dans le temple. La victoire de la mort sur une force sort de lui. Et qu'il les guérisse tous, puisque comme ça ils peuvent entendre la parole de Dieu. Et aimer entendre la parole de Dieu. Alors du coup, Dieu le Père peut demeurer en eux. Parce que celui qui entend, qui écoute, qui aime la parole de Dieu. Mais le Père et le Fils l'aiment. Et il établit cette demeure à l'intérieur de lui. Et dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, je crois, verset 20 par 19, allez, c'est plus facile, je crois. Jésus a choisi les apôtres. Il nous a choisis comme apôtres, il nous a choisis pour être des fous, pour les livrer à la mort. Il nous a choisis pour que nous soyons livrés à la mort. Ils sont tous morts martyrs. Il nous a choisis, ils ont tous été projetés intérieurement par la présence du Père et du Fils pour qu'il puisse être livré aux martyrs. Tous ils ont été livrés aux martyrs. Et dans l'Épître de Corinthiens, c'est marqué, il nous a choisis comme apôtres pour être livrés à la mort. C'est très important, ça. Les 12 apôtres ont été crucifiés. Ils ont été dépecés. C'est vrai, écorchés vifs, sciés avec une scie à bois. Il les a choisis pour être livrés à la mort. Et Jésus demeure en eux. Et le Père aussi les aime et il demeure en eux. Parce que leur témoignage, c'est le témoignage. C'est le témoignage du sang. C'est le témoignage du silence. Et c'est le témoignage de la Sainte Famille. Simon et Jude, c'est vraiment ça. Ils ont vécu dans la Sainte Famille. Vous vous rendez compte? Ils ont vécu dans la Sainte Famille. Et c'était pas seulement voisin, c'était dans la maison. Je vous dis, c'était quelque chose d'extraordinaire quand même. Et donc ils étaient là. Ils étaient là. Quand Jésus est revenu à Nazareth, et c'était là, quand Jésus a eu 19 ans. Il y a eu quelque chose, certainement, cette année-là. Quand Jésus a eu 19 ans. Bah, pour moi, quand Jésus a eu 19 ans, c'est l'étape apostolique primordiale. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils sont? Dans quoi ils ont été? Ils ont pu rentrer, quoi. C'était les deux témoins de l'apocalypse de la germination de l'Église apostolique tout entière. Et il n'y a rien engendrement de l'humanité dans une conception apostolique. Parce que c'est là, c'est quand Jésus avait 19 ans. Et dans la sponsalité cachée, divine, profonde, dans la nudité d'une vie contemplative, une pauvreté, mais immense. Le ciel s'est ouvert, quoi. Et Marie et Joseph et Jésus, bon. Le Verbe de Dieu, c'est pas, il y a quelque chose qui fait que. Il y a eu une tare de mort. Il y a eu quelque chose. Et c'est là que. Vous savez que Saint Jean, l'évangéliste, a été conçu. Enfin, la Sainte Famille. Et les apôtres, voilà. Et c'est lui ce dernier, c'était le plus jeune. Ben, ils étaient là. C'était la maison d'à côté, la maison de. C'était des cousins. Jacques, fils d'Alphée, était là. Mathieu, tout ça. Ils se connaissaient, hein. Mais il y en avait deux qui étaient sur la main. Qui était vraiment sous l'aile, dans l'aile sponsale, familiale, immaculée. Et personne, strictement personne n'y voyait rien, ne percevait quoi que ce soit, mais eux deux, oui. Il les a choisis pour comme apôtres. Et bien, ils étaient là. Ils étaient là. Hein, ils ont accompagné pendant 15 ans, ils ont accompagné ce petit, ce Saint-Jean, quoi. Et puis ils étaient là, quoi, ils étaient là, à la résurrection. Ils étaient là, vous savez, à la crucifixion, parce qu'il y avait Saint-Jean, mais eux, ils étaient un petit peu plus... Ils étaient à la croix, mais ils étaient à un jet de pierre, hein, à peu près. Simon et Jude, et puis... Ils étaient là. Et quand Jésus a poussé un gros cri, ils l'ont entendu. Ils l'ont aimé. Ils ont été fidèles à ce cri. Au moment où il est venu rebondir dans l'Immaculée Conception et dans le sacerdoce apostolique, ils ont été les premiers à en recevoir la force. Et puis à la résurrection, ils étaient là. À l'institution de l'Eucharistie, à chaque fois, ils étaient là. À un moment donné, Jésus, il était devant eux, il y avait Simon et Jude. Les silencieux d'amour apostolique, quoi. Et il a dit, allez, dans tout l'univers, dans le monde entier, la création toute entière, et baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et ayant dit ça, Jésus, il les a regardés, et il les a fait, il les a assumés, si je puis dire, et, étant donné qu'ils étaient fidèles, étant donné qu'ils étaient à la foi, étant donné qu'ils étaient dans le oui immaculé de Marie-Joseph, et de Marie et de Joseph surtout, bien sûr. Alors Jésus, il s'est élevé, quoi. Et à terre de lui, il a transporté dans tout l'univers tout ce qui devait être glorifié à cause de la parole de ses apôtres qui étaient là, à ses pieds. Il les montait. Il faut se mettre à l'intérieur de la montagne. Il faut se mettre à l'intérieur de Jésus. À l'intérieur du Verbe de Dieu. À l'intérieur de la résurrection. À l'intérieur de son anastase. Enfin, il est là. Avec toute son anastase. Il rentre dans une tarte de mar, j'allais dire. Extraordinaire parce qu'elle assume. Il emporte avec lui. Il s'élève. Il s'élève. Et il les voit. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève encore. Il s'élève encore. Dans toutes les lumières émanantes. Dans toutes les procèdes. Dans toutes les invasions de l'évangile. À la création tout entière, jusque dans tous les confins intérieurs. Et puisque les apôtres, ils proclament l'évangile, jusque dans l'intérieur de toutes les intimités de la gloire de Dieu. Alors, du coup, il s'élève. C'est une tardéma assez extraordinaire, l'ascension. Et quand nous, on s'élève dans le mystère de l'ascension, et qu'on contemple le mystère de l'ascension à l'intérieur, on s'élève, Marie a vu. Elle était là. Simon et Jude étaient là, bien sûr. Tous les apôtres étaient là. Ils étaient plus de 500. Et ils étaient levés. Ils étaient levés. Il n'y avait plus cette lumière. habitant à l'intérieur des apôtres et disparaissant à leurs yeux, puisque entièrement englouti dans cette demeurance. Donc à force s'élever, il disparut à leurs yeux. Et il a été dans la demeurance, la droite de la fécondité de lumière, de l'évangile qui devait se proclamer à ces multitudes. Il ne pouvait rien faire sans ses apôtres. Il n'a rien fait sans ses apôtres. Et au fur et à mesure qu'il s'est élevé comme ça, corporellement, résurrectionnellement, à la droite du Père, il y avait un mouvement en infinité dans ses apôtres, puisque c'était la demeure et la demeurance de celui qui demeure, parce qu'il était fidèle, plus fidèle que Simon et Jude, c'est difficile, hein. Il faut être ami avec eux. Parce qu'il y a des tas de secrets comme ça. Qui nous sont très, très touchants, qui nous sont communiqués, qui rayonnent, qui surabondent, qui transforment tout. Et alors évidemment, en s'élevant comme ça, corporellement, de manière résurrectionnelle, dans toute son anastase, c'est là. Et ils sont là. À un moment donné, c'est vrai, il est encore visible. Il y a encore la lumière, quand même. En fait, il vient se fondre à l'intérieur de son corps mystique et apostolique. Se fondre dans la demeurance du Père, parce qu'ils ont écouté de Dieu et qu'elle surabonde en eux et qu'ils donnent déjà leur vie. Ils donnent déjà leur mort. Ils ont tout donné, ils ont tout quitté, hein, tout, absolument tout. Leurs opinions, tout ce qu'ils ont donné, ils les a livrés à la mort. Nous, les apôtres, le Seigneur nous a livrés comme ça à la mort pour qu'on soit considérés comme des fous. Et en s'élevant comme ça, étant donné que c'était de la résurrection, c'est de son anastase, se ramassait dans son exercice, voilà, si je puis dire, c'est pas une manière de parler très très. Son anastase ramasse son exercice, c'est-à-dire la résurrection, il ramasse tout ce qui. Un mouvement d'ascension, c'est un mouvement d'aspiration, hein, et de lumière surtout, hein, et de demeurance. Alors, du coup, il constitue son corps dans les apôtres, dans le sang des apôtres, de Marie. Et au fur et à mesure qu'il monte comme ça dans l'ascension, au fur et à mesure qu'il s'élève dans la lumière, il y a quelque chose de corporel. Quelque chose d'incarné qui fait que il les fond à l'intérieur de lui, il les assume à l'intérieur pour fondre et réaliser la construction de l'Église, la construction d'un temple dont nous sommes les membres vivants. Il nous a assumés à l'intérieur de lui en montant comme ça, et nous avons été inspirés, assumés à travers cette demeurance, parce que nous sommes fidèles à la bonne nouvelle répandue, et notre sang aussi qui doit se répandre, pour que le sang de Jésus, notre sang, qu'il n'y ait plus de distance entre sang et sang de Jésus, le sang livré de Jésus, la croix brûlante de Jésus, notre croix brûlante, sont indivisibles. Alors à ce moment-là, nous sommes assumés. Il monte dans le ciel et il construit. Et nous sommes les membres d'un édifice vivant. Et cet édifice vivant, ben, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est à cause de la demeurance, vous voyez, c'est ça. On enfonce parce que c'est un jute qui a dit ça. La seule fois où on voit Jude intervenir, et je suis dit, voilà, c'est très très fort. On fait partie de l'Église, c'est vrai, on est membre vivant de l'Église de Jésus vivant. Cette proximité. Cette intimité. Cette mission, cette vocation. Parce que quand même, nous avons une mission sur la terre et dans les cieux et en Dieu. Elle doit atteindre les extrémités des temps, les extrémités de la mer, les extrémités des océans, les extrémités de la terre. Ça veut dire les extrémités de l'écarcis et de l'anastase. Les extrémités de l'univers. Le fond et les extrémités célestes de la lumière de gloire. Nous proclamons l'évangile à la création tout entière. Nous avons une vie apostolique. Nous faisons partie de la Sainte Famille. Nous sommes réengendrés à une vie immaculée, divine, surnaturelle, glorieuse, parfaitement pure. Catholique universel, jusqu'à pénétrer à l'intérieur de la demeurance, de ce qui demeure dans le Christ assis à la droite du Père. Pour le faire atteindre toutes ses limites, son éclatement, son accomplissement, et sa plénitude. Déployés, manifestés. Nous avons une vie apostolique. Et si moi et Jude, si on ne les voit pas parler beaucoup, ben, parce qu'ils sont fait partie de ces apôtres. C'est vrai, alors Saint-Jacques, Saint-André, Saint-Jean d'Apocalypse, Saint-Pierre, Saint-André, Nathanaël, merveilleux Nathanaël quand même, Barthélemy. C'est inouï ça. Mais c'est moi et Jude. Ils existent là. Où est-ce qu'ils sont? On cherche sous la table. Tu rigoles, oui. La vie apostolique. Ils ont drainé la vie apostolique. Cette vie apostolique immaculée, royale, accomplie, terminale, se proclamant jusqu'aux confins, jusqu'au fond. C'est eux. Nous avons une vie apostolique. Nous sommes les membres d'un édifice qui se construit parce que l'admirable ascension ne cesse de se prolonger aujourd'hui encore dans l'ouverture des deux derniers sceaux de l'Apocalypse, des deux sceaux qui viennent devant nous, le cinquième sceau. Et parce qu'il faut annoncer la sponsalité. Dans l'innocence divine, à l'intérieur du Verbe de Dieu. Voilà pourquoi il faut ciment et jute, bien sûr. Et donc il y a le cinquième saut et le sixième saut. On évangélise. Et le mystère de l'ascension s'élève encore. S'élève encore à la droite de Dieu, Père. Disparaissant dans l'agneau, aux yeux de tous, comme ça. Parce qu'il faut le sixième saut, bien sûr, évidemment. Puisque la résurrection doit être manifestée, assumée, et s'exprimer. Pour la conversion du monde, quand même. Et le sixième saut, bien sûr. Ils vont jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. De la disparition du mauvais de la terre. Son aspiration au-delà de tout ce qu'ils n'ont pas apporté à l'évangélisation de l'univers. Leur disparition de l'Antichrist dans l'Aquilon, dans le vide. Nous avons une vie apostolique. Et ils ont évangélisaient, ils ont été les apôtres. Avant, on les voit pas, quoi. Par leur oraison, par leur ministère apostolique, c'est un ministère mystique. Résurrectionnel, ascensionnel, je m'excuse. Et ceux qui sont les fondations de la Jérusalem dernière, de la Jérusalem spirituelle, ils sont les fondations intérieures de l'apostolat dans lequel l'édifice se construit, où nous sommes nous-mêmes avec. Derrière eux, avec eux, et on a assumé, emporté, et transformé, et engendré en apôtre du monde nouveau, membre incarné d'un seul corps, d'un seul temple, qui est le temple du Saint-Esprit. Pour ça, il faut être très très intime, surnaturellement, avec Simon et Jude. Dans la basilique du pape, enfin la cathédrale du successeur de Pierre, Saint Jean de Latran. Il y a, je suppose que vous y avez tous pu y aller au moins plusieurs fois, monter les escaliers pour aller dans le Saint des Saints, là. Le seul Saint des Saints de la terre tout entière, voilà, c'est Saint Jean de Latran. Et là, il y avait, dans la cathédrale du pape, il y a des statues comme ça qui font, je sais pas, 4 à 5 mètres de hauteur chacune, je crois. Peut-être plus, je sais pas, 7, je sais plus. Je pourrais pas dire, mais c'est immense statue quand même, ça peut être plus que 6 mètres. Mais. Et chacun des apôtres est là, et je me rappelle, et chacun est là avec l'instrument de son supplice. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Jésus les a choisis pour le supplice, hein, pour la croix, hein, pour mais pas la croix comme ça, oui, oui, la croix avec un pipeau, non, non. Je me rappelle que Nathanaël, c'est le troisième quand on rentre à gauche, là, c'est Nathanaël, on le voit avec la peau, parce qu'on lui a enlevé, on l'a écorché vif, alors il est avec sa peau, comme ça, dans la main gauche, tout content. Et il me semble que quand on rentre dans la basilique, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est pas grave, il m'en voudra pas si je me trompe. Mais il me semble que c'est. Il y a donc c'est Simon et Jude. Et Simon, c'est avec un grand gourdin, je crois que on l'a frappé avec un gros gourdin. Mais de manière à lui faire mal, quoi. Ça a duré longtemps. Finalement, un coup de gourdin, on a fini par lui écraser la tête. Mais et puis Jude, Simon et Jude. Et Jude, c'est comme avec une scie à bois. Une grande scie, là. Parce que Jude, il était très très proche de Jésus crucifié. Très 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 proche de Jésus crucifié. Prophète qui est mort comme ça aussi. Hein. Isaïe, c'est lui qui a vu toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. On a dans les prophéties d'Isaïe, 50, 51, 52, 53. Voilà. Jude, c'est quelqu'un qui était dans la passion. Il voyait ce qui se passait à l'intérieur de chaque mouvement de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'il est gosse. Non, c'est des gosses, des apôtres. Alors, quelquefois, on entend des gens ici, j'en ai marre de vivre. Je dis, pardon, excusez-moi. Oui, j'en ai marre de vivre. Ah bon, t'en as marre de vivre. Bon, ben, ça, Simon et Saint-Jude, je vous en supplie. Comment ça? C'est peut-être le moment de commencer à vivre, oui. Si t'en as marre de vivre, c'est le moment de. C'est le moment, hein. Il faut vivre au contraire. Nous avons une vie apostolique. Tu n'as pas souffert jusqu'au sang. Enfin, je veux dire, tu n'as pas encore. Peut-être, si tu dis ça, c'est que tu n'as pas encore commencé. Ça fait combien de temps que tu es baptisé? Oh, pas longtemps, 17 ans que je suis baptisé. Ah, bon, voilà. Et tu en as marre de vivre, d'accord. Bon, ben, il faut peut-être que maintenant, plutôt que, hein, voilà, plutôt d'en finir, dire Seigneur, écoute, emporte-moi. J'en ai marre de vivre. Ben, il faut que tu dises, voilà, j'en ai marre de vivre. Sans être, sans avoir une vie apostolique. Ça, d'accord. Sans avoir une vie intérieure, surnaturelle, apostolique totale. Le monde nouveau. Ça dépend des apôtres, quoi. Et la construction va atteindre, toucher, s'approche de son terme, la Jérusalem glorieuse. Va apparaître, le ciel va s'ouvrir et la Jérusalem, la construction, et j'en suis les mains. Il va falloir donc, il va falloir que je me mette, que j'apprenne en étant intime avec l'apostolat de l'Immaculée Conception, vous vous rendez compte. S'appuie sur l'apostolat apostolique. S'appuie sur l'apostolat johannique, s'appuie sur l'apostolat de la Sainte Famille, Simon et Jude. S'appuie sur. Parce que ça va jusqu'aux confins de chaque instant présent, jusqu'aux confins de la matière, jusqu'aux confins du principe de Dieu. Et dans les profondeurs de l'inhabitation et de la demeurance, la circumcession, la péricorèse, comme disent les Grecs, la demeurance du Père, parce qu'on est fidèle. Nous sommes fidèles à ceux qui sont fidèles à la parole qui l'aime. Alors Dieu, le Père et moi-même, nous faisons notre demeure en lui. Alors commence l'ascension. Mais cette ascension, elle construit quelque chose. J'en ai marre de vivre sur la terre si j'ai pas cette vie apostolique actuelle, immaculée, triomphante, intrépide, produisant la paix divine à l'intérieur de la paix divine pour y faire surabonder la paix divine elle-même. Voilà, à Jérusalem spirituelle, jusqu'à l'incarnation et la transactuation sponsale de l'époux et de l'époux jusqu'aux confins de l'univers, jusqu'au fond, jusqu'à la racine et à l'épanouissement et l'accomplissement. Et la manifestation de l'ouverture des temps. Et on en est l'apôtre. Nous sommes les enfants du monde nouveau. J'en ai marre de vivre sur la terre. Très bien. Ça vient de Dieu. J'en ai marre de vivre sur la terre sans avoir commencé ma vie apostolique. D'accord. Si moi, juste, ils ont une vie apostolique. Vous voyez ? Elle n'est pas du tout tonte. Non, c'est une vie apostolique, c'est celle-là. Ils ont été éduqués par Joseph. C'est ça qui est extraordinaire. Pour ça que moi, je les adore, ces deux-là. Et en tout cas, ils ouvrent à l'intérieur de nous tous les espaces de la surabondance apostolique, de notre vocation, qui structure par le fruit des sacrements, et le temps est en train de s'ouvrir. Le cinquième et le sixième sceau, les deux sceaux de l'Apocalypse, sont vraiment liés à la Sainte Famille, à l'enfance, et à la croix glorieuse aussi. Cette vie apostolique est à l'intérieur de la passion glorifiée de Jésus. Elle est à l'intérieur de la croix glorieuse de Jésus. Elle est à l'intérieur du grand sabbat. Elle est à l'intérieur de la montagne. Elle doit guérir, atteindre, délivrer, transformer, diviniser, sanctifier, assumer et glorifier toutes les personnes humaines dans notre univers qui ont été, qui sont et celles qui seront. Et ça, c'est notre vocation. Dieu nous a appelés. C'est le 28. Si vous voulez, ouais. Ça va plus. 28. Ouais. Donc là, c'est sûr. Hein. Il ne reste plus que 30 jours. Hein.
Plus que 30 jours, du coup.
Pour que ça fasse 555. Apostolique de l'innocence triomphante, crucifiée, triomphante et divine de la demeurance, Et ça poste là souterrain, enfin pas souterrain, trans du verbe de Dieu, devenait épousé. Dans l'incarnation de l'Église tout entière, on a 30 jours devant nous pour cette opération, une transformation, une manifestation. 30 jours devant nous, vous rendez compte, pour que ça atteigne le fond de la lumière de gloire de toute l'hierarchie angélique. C'est trop fort, vraiment. C'est trop important, on est mobilisé.